Ésaïe est appelé parfois par les commentateurs bibliques le prophète évangélique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accent évangélique dans son message, et avec deux points particulièrement marqués. C'est d'abord, je crois l'essentiel dans le texte d'Ésaïe, la place occupée par le Messie, la venue du Sauveur, le serviteur de l'Éternel. Vous savez que c'est dans le livre d'Ésaïe que nous trouvons ces quatre chants, ces quatre passages où il est question du serviteur de l'Éternel. Et dans le dernier cantique du serviteur, au chapitre 53 du livre d'Ésaïe, on est frappé par la précision de la prophétie en ce qui concerne l'œuvre expiatoire de Jésus sur la croix. Et puis aussi, Ésaïe se révèle évangélique par sa conception très large du salut. Pour lui, l'Éternel n'est pas seulement le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, comme il l'appelle bien souvent. Pour Ésaïe, Dieu appelle toutes les nations au salut, justement en son serviteur, le Messie. Il y a un avenir positif pour les nations, pas seulement pour Israël. Et ce message de l'appel universel, de l'amour universel de Dieu pour les nations, a pu certainement heurter l'orgueil juif et le particularisme juif, mais c'est nous le peuple élu, et pas les nations. Ça a pu les heurter, et ça a pu être une des causes du martyre d'Ésaïe, puisque, selon la tradition, et elle est assez bien établie, Ésaïe est mort martyr, scié dans un tronc d'arbre. Ce caractère évangélique du message d'Ésaïe apparaît clairement dans ce chapitre 55 que nous venons de partager ensemble. Et je voudrais avec vous pointer cinq éléments du message, sans tomber dans un détail excessif, mais cinq éléments qui nous font voir Ésaïe sous l'angle justement de l'évangile de Jésus-Christ. Nous retrouvons des thèmes qui sont parfaitement en harmonie, en accord avec le message des évangiles. Le premier thème, ça ne vous surprendra pas, c'est la gratuité du salut. Le thème ouvre le chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, achetez du pain et du vin sans argent, sans rien payer. Ce caractère gratuit du salut, vous direz, mais nous y sommes habitués. Nous savons que le salut est gratuit, qu'il ne s'achète pas, que la communion avec Dieu n'est pas monnayable. C'est une notion essentielle que nous connaissons bien. Mais n'oublions pas que nous sommes des croyants de la Nouvelle Alliance. Et n'oublions pas non plus qu'Ésaïe est un prophète de l'Ancienne Alliance. Une alliance marquée par tout le système lévitique, tout le système des sacrifices et des offrandes, tout le clergé qui est officié pour célébrer l'Éternel et pour faire la médiation entre le peuple et son Dieu. Tout était marqué par ce formalisme-là. Il fallait offrir quelque chose pour être en paix avec Dieu. Et les animaux du sacrifice, il fallait soit les prendre dans son troupeau, soit les acheter pour les offrir. Ésaïe annonce clairement et hardiment la gratuité de la relation à Dieu. Pas besoin d'acheter un animal pour le sacrifice. Le salut est gratuit. Il ne s'acquiert pas à prix d'argent ou avec abondance de bonnes œuvres. Donc vous voyez que c'est déjà quelque chose de présent dans l'Ancien Testament, bien avant la venue de Jésus-Christ. Et déjà, dans l'Ancien Testament, tout en prescrivant à Israël tout ce système, parfois un peu compliqué, des sacrifices, le système lévitique, déjà Dieu mettait l'accent sur la foi, sur la confiance en lui, et sur l'obéissance à sa volonté, plutôt que dans les sacrifices. Ce que l'Éternel préfère, c'est l'obéissance, plutôt que les sacrifices. Alors, les sacrifices avaient une place importante, mais ils devaient se situer dans la perspective d'une attitude de foi en l'Éternel. C'était la foi qui était là présente. Et ce salut gratuit, nous l'avons en Jésus-Christ. N'oublions jamais, frères et sœurs, que si le salut est gratuit pour nous, si Dieu nous l'offre dans sa grâce, il a coûté très cher à Dieu. C'est Dieu qui a payé le prix. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Quand on fait un cadeau, il faut l'acheter pour pouvoir l'offrir. Dieu a payé du prix de la vie de son Fils, le salut gratuit que nous recevons par la foi, la vie de son Fils unique Jésus-Christ. Et la seule condition pour bénéficier de ce salut que Dieu a acquis pour nous, dans la personne de son Fils, c'est d'avoir soif. Soif de pardon, soif d'amour, soif de Dieu. Est-ce que nous avons cette soif-là? Est-ce que nous avons toujours soif de Dieu, même après peut-être des décennies de vie chrétienne? Est-ce que nous avons toujours soif de Dieu? Je crois que c'est un des effets du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, de maintenir ce désir de Dieu, de vouloir le rencontrer, d'être dans sa présence, comme nous le sommes ce matin, ensemble en Église, comme nous pouvons l'être individuellement chez nous, dans notre vie personnelle. Soif de Dieu, avoir soif de Dieu. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, sans argent, sans rien payer. Harmonie avec le Nouveau Testament et avec le message de l'Évangile. On se souvient de Simon, qui dans le livre des Actes, avait voulu acheter à prix d'argent le pouvoir de faire des miracles au nom de Jésus. Et il a donné son nom à un péché, justement, qui s'appelle la simonie, hein, de vouloir monnayer les bienfaits de Dieu, monnayer la grâce de Dieu. Là, il y a une perversion du message. Le salut est gratuit. Les dons de Dieu sont gratuits. Il les accorde dans sa grâce. Deuxième élément de convergence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle, c'est cette alliance éternelle dans le Fils de David, le Messie Jésus. Alors, contrairement aux quatre chants du serviteur que j'évoquais tout à l'heure dans le texte du prophète Ésaïe, Jésus, enfin le Messie, n'est pas mentionné directement. Mais Dieu parle d'une alliance éternelle avec David. David comme conducteur des peuples. David ne peut pas être l'homme d'une alliance éternelle, étant mortel comme nous. Mais dans les évangiles, Jésus nous est présenté comme le fils de David. Le Messie est fils de David. Il est la descendance de David. C'est dans la personne du Messie, Jésus, que s'accomplit la promesse faite à David, hein, en 2 Samuel 7, vous vous souvenez, quand David voulait construire une maison pour l'Éternel, un temple, Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui me construiras une maison, mais moi je vais te construire une maison. Je vais te donner une descendance. Et au travers des descendants de David, et Salomon en particulier, il y a toute la lignée du Messie qui est indiquée, et cette descendance s'accomplit parfaitement en Jésus, le Christ, le Fils de David. C'est le Christ qui est devenu le garant d'une alliance éternelle. C'est lui qui est appelé à être le conducteur, le commandant des peuples, et cela de manière spirituelle, non pas comme un super président ou un super roi, non pas selon un super sionisme international mal placé ou un impérialisme de la nation d'Israël. C'est sur un autre plan que se situe la souveraineté du Messie descendant de David. Mon royaume n'est pas de ce monde, nous a dit Jésus. Son royaume est un royaume spirituel. C'est son Église, c'est l'ensemble des rachetés de l'Éternel qui forment ce royaume de notre Dieu qui est répandu dans tous les peuples aujourd'hui encore. L'alliance en Jésus est éternelle. Et c'est cela qui fonde notre assurance. Elle est éternelle car elle s'incarne dans Jésus, l'homme Dieu. C'est Dieu qui est le garant de cette alliance pour l'éternité, ce qui nous donne de l'assurance pour notre salut. Notre salut est dans cette alliance que Dieu maintient contre vents et marées et surtout contre notre faiblesse, contre nos infidélités, contre nos insuffisances. L'alliance demeure parce que Dieu porte les signes de cette alliance sur les mains de Jésus, les signes de la crucifixion. C'est l'alliance de Dieu éternelle. La place centrale, donc, de cette alliance avec le fils de David, le descendant de David, le Messie, Jésus. Troisième élément de convergence entre les deux alliances, la télécommande faiblit. Et là, il y en a deux. Voilà. L'appel à la conversion. Ésaïe et Billy Graham, même combat. L'appel à la décision personnelle, à la foi, à la conversion. Les prophètes d'Israël ont déjà appelé le peuple bien des fois, la conversion. Et ils ont exhorté le peuple à changer de conduite, bien souvent. Et cela, bien avant les apôtres, qui ont prêché l'évangile de Jésus-Christ et qui ont appelé les auditeurs à croire en Jésus dans le Nouveau Testament. Appel de la part d'Ésaïe à rechercher Dieu pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est proche. Le jour du salut, la possibilité de la conversion ne durera pas éternellement. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et il y a cette parole très précise de l'Ancien Testament qui est citée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est vrai pour les non-croyants qui sont appelés à la foi en Jésus-Christ. C'est vrai pour nous, croyants aussi, quand nous entendons Dieu nous dire quelque chose. Ne laissons pas passer le temps. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, obéissez, n'endurcissez pas votre cœur. Entendre la parole de Dieu et l'appel à la conversion en particulier nous place en situation de responsabilité. Et là, il y a un seul mot d'ordre, demi-tour. La conversion, c'est le demi-tour. C'est le changement de direction. Détournez-vous de votre chemin personnel, égoïste et pécheur, et tournez-vous vers Dieu. Il n'y a pas de relation pacifiée avec le Seigneur, pas de pardon, pas de vie nouvelle, sans renoncement à soi-même et abandon du chemin suivi jusqu'à présent. La parole d'Ésaïe est claire. Et elle présente Dieu selon sa nature. Dans le même paragraphe de ce passage, avec l'appel à la conversion, il est dit que Dieu est un Dieu compatissant. Dieu qui pardonne. Dieu qui n'est pas un homme. Et si on comprend bien le contexte du passage, il semblerait qu'Ésaïe veuille dire « Là où les hommes condamnent, Dieu pardonne. » Ça ne veut pas dire que Dieu pardonne tout, mais Dieu pardonne à celui qui vient à lui, qui vient dans la repentance et qui lui demande pardon. Alors que les hommes, les êtres humains, sont souvent implacables, ont du mal à pardonner. Dieu est un Dieu de compassion. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui pardonne abondamment. Dieu est compatissant. Dieu est un Dieu de pardon à chacun de répondre à cet appel. Encore deux points de convergence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le quatrième, l'action décisive de la parole de Dieu. Elle était déjà mentionnée au début du chapitre 55 que nous avons lu. Il est écrit « Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon ». Sous-entendu, la véritable nourriture, encore plus que le pain dont nous avons besoin pour notre subsistance physique, la vraie nourriture, c'est celle qui vient de la parole de Dieu. « Écoutez-moi et mangez ce qui est bon ». La parole de Dieu, nous dirons la Bible pour nous, est décisive. Non pas en elle-même, en vertu de je ne sais quelle bibliolatrie mal placée, mais tout simplement parce qu'elle est la parole de Dieu. Et j'ai voulu terminer notre série d'études bibliques à Pessac avec le psaume 119, cet hymne à la parole de Dieu. Et nous avons souligné dans notre méditation de ce psaume 119 que jamais, de la part du psalmiste, il n'y a d'adoration de la parole pour elle-même, comme quelque chose de magique. La parole est vraie, la parole est forte, la parole est efficace parce qu'elle est la parole de Dieu. Son origine qui crée son efficacité. C'est ce que dit Ésaïe. La parole de Dieu accomplit ce pour quoi Dieu l'envoie. Il n'y a pas de magie de la parole, pas d'utilisation magique de la parole comme peuvent le faire certains, en particulier dans notre monde évangélique. Pas de magie de la parole, mais la puissance de l'auteur de cette parole. La parole que Dieu envoie est efficace. Même si elle ne dépend pas de celui qui la porte, et si elle dépasse la faiblesse de celui qui la porte, c'est l'Esprit qui agit au travers de cette parole. La parole de Dieu est efficace. Elle accomplit ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Elle est au service de Dieu pour réaliser sa volonté. Mystérieusement, la parole parfois endurcit le cœur incrédule. C'était le cas des pharisiens, des scribes. La parole endurcit le cœur des incrédules. Mais la parole vivifie le cœur de ceux et celles qui s'ouvrent à l'action de Dieu. Et nous savons que c'est cette réalité qui est évoquée quand la parole évoque la façon dont Jésus a enseigné en parabole. Les pharisiens et les scribes refusaient les paraboles, petites histoires pour les enfants, mais message de Dieu pour ceux qui ouvrent leur cœur et qui sont nourris par cette parole et en communion avec Dieu par cette parole. Nous savons que la parole est efficace, la parole, et nous venons de le lire, mais nous ne savons pas toujours pour quel but Dieu l'envoie. Ça, c'est Dieu qui le sait. C'est Dieu qui est le maître de sa parole à nous. Cette efficacité absolue vient du Saint-Esprit, car la parole de Dieu est vivante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants pour pénétrer au plus profond de l'être humain. Et une même parole annoncée par un prophète ou par un pasteur en chair, comme je le fais ce matin avec vous, et c'est ça le miracle de l'annonce de la parole, une même parole annoncée par une seule bouche peut répondre aux besoins de chacun et chacune des auditeurs et auditrices, chacun dans sa situation. Parce que c'est la parole de Dieu, parce que l'Esprit l'applique à chacun et chacune d'entre nous selon ce qu'il a prévu de faire. La même parole qui est reçue à chacun selon ses besoins. Ayons confiance en la parole de Dieu et portons-la comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, sans oublier que cette parole, elle est en relation étroite avec la parole faite chair, Jésus, le Logos éternel qui s'est fait chair. Il n'y a pas de distance, pas de décalage entre cette parole de Dieu et Jésus, la parole incarnée. Dernier point de convergence, la fin du chapitre 55, c'est l'espérance. C'est cette notion, ce thème qui clôture le chapitre. Il n'y a pas de vie humaine sans espérance, tout du moins sans espoir. La sagesse populaire dit « l'espoir fait vivre », vous le savez. Mais l'espérance biblique est plus forte que la sagesse populaire. Et je crois que, sans faire une théologie complète de l'espérance biblique, ce serait prétentieux de vouloir le faire ce matin devant vous, mais il me semble que quand la Bible évoque ce thème de l'espérance, elle le fait toujours à trois niveaux. D'abord, à un niveau personnel. L'espérance, elle est pour notre vie personnelle, pour nos besoins personnels. J'allais dire au niveau existentiel de nos existences, les besoins qui sont les nôtres. Et c'est le cas ici pour l'avenir d'Israël. Après l'épreuve, Israël avait besoin de recevoir la bénédiction et Dieu pourvoira à la restauration d'Israël avec cette belle image de la nature transformée. Notre espérance chrétienne s'incarne dans notre réalité personnelle. Dans l'épreuve, la difficulté, nous espérons et nous demandons à Dieu d'intervenir en notre faveur. Il le fait selon sa volonté, mais il écoute notre prière et il vient au devant de notre espérance. Deuxième niveau, l'espérance biblique, c'est au niveau du Messie, l'espérance d'Israël. C'est la venue du Messie, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Encore aujourd'hui, nous croyons que le Messie est déjà venu dans la personne de Jésus. Nous attendons son retour, sa parousie, son avènement. Israël, selon la chair, selon la religion juive, attend la première venue du Messie. Mais l'attente est celle du Sauveur. C'est quelque chose de central dans l'espérance biblique, la place de Dieu qui vient nous visiter en Jésus, au niveau du Messie. Et puis, troisième niveau de cette espérance, c'est le niveau de la nouvelle création. L'œuvre du Messie rend possible la nouvelle création, à la fois sur le plan personnel, notre restauration personnelle, notre résurrection, et puis sur le plan collectif de la nouvelle création, où, comme le dit la parole, où la justice habitera. Enfin, enfin, où la justice habitera. C'est cette nouvelle création que nous attendons, et c'est cette espérance qui nous porte et qui nous permet de ne pas désespérer quand nous voyons la forêt amazonienne en feu, ce qui est assez saisissant comme image. Nous avons l'espérance aussi d'une autre création, d'une recréation. En conclusion, Ésaïe, prophète évangélique, sans aucun doute, mais ne faisons pas se caramboler les deux alliances. Ésaïe évangélique, parce qu'enraciné dans la bonne nouvelle. La bonne nouvelle d'un Dieu qui ne prend pas son parti d'un monde et d'un être humain pécheur condamné à la perdition, mais un Dieu qui vient en la personne du Messie apporter le salut et la vie éternelle. Ce chapitre 55 d'Ésaïe nous rappelle aussi, sans vouloir confondre les deux alliances, la profonde unité de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Parce que les deux viennent de Dieu. Et parce que les deux regardent à Jésus, le Messie, l'ancienne comme son espérance, la nouvelle comme son accomplissement. Dieu est un. Sa parole est une. S'il la développe, cette alliance, progressivement, c'est à cause de nous et de notre faiblesse. Faiblesse d'Israël dans l'Ancien Testament, notre faiblesse dans le Nouveau Testament. Mais le Seigneur est plus fort que notre faiblesse. Il nous tient dans sa main et a notre salut gravé sur ses mains suite à la croix. Alors à Christ, notre Seigneur, soit toute la gloire. Amen.